Bonsoir à toutes et à tous. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Ce soir, nous sommes le quatrième vendredi du mois. C'est donc la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Damien et Mathieu, moi-même, et Claude Manette. C'est donc trois mâles pour aborder les mouvements féministes ce soir et la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Mais je rappelle qu'on peut être homme et féministe. En revanche, nos deux invités sont des femmes. Irène Pereira, vous êtes sociologue, chercheuse associée au groupe de sociologie politique et morale à l'UHESS, ainsi qu'au laboratoire culture et société de l'Université de Strasbourg. Vous êtes cofondatrice et coprésidente de l'Institut de recherche d'études, de formation sur le syndicalisme et les mouvements sociaux, l'IRESMO. Et vous avez notamment publié l'ouvrage « Grammaire de la contestation, un guide de la gauche radicale », publié en 2010. Notre seconde invitée, Laurence Baudelet. Vous êtes présidente de l'association « Violence entre femmes ». Une association qui a pour objet de prévenir toute forme de violence entre les femmes, que ce soit dans la sphère privée, celle du couple ou de la famille, ou dans le monde professionnel, dans la société en général.
Bonsoir.
Homme ou femme, vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 et intervenir à tout moment. Comme toutes les précédentes émissions, vous pouvez télécharger celle de ce soir sur le site internet de la Fondation Copernic, ou la réécouter mercredi prochain sur la radio, 106.3 à 7h30.
Donc, bonsoir à toutes et tous. Je propose de commencer par le commencement. Donc, je vais me retourner vers Irène pour avoir un peu l'historique de l'apparition de ce mouvement, de ces mouvements féministes qui sont assez récents dans l'histoire de l'humanité. Donc, en quelques mots, pour commencer cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire des débuts du féminisme en France?
Déjà qu'il y a une histoire des femmes à toute époque et il y a eu des mouvements de femmes, mais c'est vrai qu'on utilise le terme de féminisme qu'à partir du 19e siècle. Le mot apparaît d'ailleurs plutôt à la fin du 19e siècle. On parle de pré-féminisme à partir de la Révolution française avec des figures telles que Condorcet, Olympe de Gouges, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt à la fin du 19e siècle, enfin en tout cas dans la deuxième partie du 19e siècle, qu'on va parler de féminisme et de première vague du féminisme.
Et quel genre de grande figure à cette époque
On peut parler de Flora Tristan, qui était une féministe et une militante socialiste. Il y a aussi Marguerite Duras, pardon, un petit trou de mémoire, dont les archives constituent maintenant la bibliothèque où se trouve effectivement la bibliothèque du féminisme à Paris.
D'accord. Et quels sont les premiers thèmes de revendication à cette époque?
Alors, les premiers thèmes de revendication, enfin, la première vague du féminisme, les thèmes... Alors, ce qu'on appelle la première vague du féminisme, elle va de la seconde partie du 19e siècle jusque plutôt la Seconde Guerre mondiale, enfin... Et à ce moment-là, c'est plutôt des revendications sur l'égalité politique, hein, avec le mouvement des suffragettes, aussi bien en France qu'en Angleterre, hein, la revendication de pouvoir, et bien avoir la possibilité de voter. Ce sont aussi des revendications sur l'égalité civile, hein, pouvoir avoir les mêmes droits en termes de droits de la famille que les hommes, et puis des revendications sur professionnelles, pouvoir accéder à des études et à des professions qui sont réservées aux hommes.
Alors, vous parlez de première vague, ça veut dire que ça a été suivi d'autres vagues. Quelles étaient par la suite? Alors là, on est en 1900, avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, disons que la première vague du féminisme, c'est vrai qu'à partir de 1944, on a donc le droit de vote des femmes en France, hein, qui a été obtenu auparavant dans d'autres pays. Et en ce qui concerne les autres vagues du féminisme, c'est vrai que à partir des années, en tout cas pour la France de 1970, où se crée le mouvement de libération des femmes, le MLF, on va utiliser le terme de deuxième vague du féminisme. Alors ces notions de vagues, elles sont un peu discutables. Je ne vais pas rentrer dans les discussions historiographiques, mais disons que c'est des repères assez pratiques si on veut un peu s'y retrouver. Et puis on parle à partir de 1995, en tout cas pour la France, de troisième vague du féminisme.
Il n'y a pas qu'une histoire de date, il y a aussi des thèmes et des identités peut-être un petit peu différentes.
Alors bien sûr, parce que les thématiques ont évolué en fonction aussi de ce qui a été acquis par les femmes au cours de l'histoire, de cette histoire relativement récente, et puis en fonction aussi du contexte socio-historique. Néanmoins, pour autant, c'est vrai que on peut penser que certaines choses ont été acquises, et c'est certainement ce qu'on verra par la suite, et pour autant s'apercevoir que dans les faits, si en droit elles sont acquises, dans les faits elles ne sont pas réellement acquises. Alors ce qui fait qu'il y a une un certain nombre de revendications qui perdurent, mais d'autres qui sont peut-être plus circonstanciées à certaines époques, puisque bien sûr le droit de vote, à partir du moment où il est acquis. Mais à partir des années 70, par exemple, c'est vrai qu'on voit apparaître d'autres thématiques. Alors la question de la sexualité et des droits liés à la sexualité déjà plus ancienne, avec les mouvements néo-malthusiens, par exemple, au début du XXe siècle. Mais par contre, la question des violences faites aux femmes, c'est une thématique, disons, qui va prendre un essor plus particulier à partir de la seconde moitié des années 70.
Laurence Baudelet, vous voulez peut-être intervenir sur le mouvement féministe à cette époque?
Disons que on est des héritières, ça c'est sûr, des luttes des années 70, et c'était très bien là qu'il y a eu quand même une sorte de commémoration ces dernières années par rapport à ça. Maintenant, je suis quand même un peu inquiète, parce que je trouve qu'il y a une dépolitisation des générations plus récentes par rapport aux enjeux du féminisme, et je rejoins les analyses d'Irène, c'est-à-dire que effectivement, si un certain nombre de choses sont acquises en droit, elles ont du mal encore à se traduire dans le social. Donc je pense qu'on est loin d'avoir abouti, et qu'il faut continuer à se battre, hein, d'une certaine façon, pour nos droits et pour avancer. Il y a encore pas mal de combats à mener.
Et selon vous, quelles sont les principales explications à cette difficulté de concrétiser ces acquis, notamment dans le social ?
Je crois qu'il y a une sorte de comment dire, d'erreur là, d'appréciation de la part de beaucoup de femmes qui pensent qu'en fait justement on a débouché sur un certain nombre de droits et que ces droits étant acquis, je pense à l'avortement par exemple, je pense à la contraception, il n'y a plus besoin de se battre. Or on voit des groupes aujourd'hui remettre en question la question de l'avortement. On voit bien que c'est pas complètement accepté dans le corps social, et si on voit les choses au niveau européen ou au niveau mondial, il y a encore du chemin à faire. Donc ce qu'on a acquis à un moment on peut toujours le perdre, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, justement, et s'endormir un peu en pensant qu'on est en France, qu'on est très protégé, etc. Je crois que c'est voir les choses de manière, fausse, à mon avis.
Ça, on s'en rend bien compte au niveau social et économique, que les droits obtenus peuvent régresser. Juste, on n'avait pas terminé sur la troisième vague. Comment elle se caractérise?
Alors la troisième vague du féminisme, elle se caractérise à la fois par un renouvellement au niveau de certaines thématiques, à la fois sur aussi des influences différentes, puisqu'avec l'arrivée des théories queer, c'est vrai que vont émerger aussi certaines liens entre le mouvement féminisme, enfin certaines franges du mouvement féministe et certains aspects du mouvement homosexuel. Et puis d'autre part,
Ce qui n'était pas le cas dans
les années 70. Si, mais d'une manière différente, puisque la question du queer va mettre
queer
en avant...
Pour
le queer, c'est un mouvement intellectuel et militant qui apparaît aux États-Unis, lié à ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est-à-dire la mise en avant aussi d'une pluralité des identités. Et de fait, si vous voulez, le mouvement des années 70, il avait... mise en avant une certaine unité, sororité des femmes. Et c'est vrai que la troisième vague a insisté sur effectivement cette pluralité des identités. Par exemple, quand on est femme et d'origine immigrée, c'est peut-être pas exactement les mêmes problématiques que quand on est une femme française issue de la bourgeoisie. De même... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Il y a aussi des controverses autour de la question de la prostitution, autour de...
Sur le port du voile,
peut-être. Du port du voile, justement. Donc, effectivement, la troisième vague du féminisme, on l'a aussi caractérisée par un renouvellement aussi de génération, ce qui est un peu discutable. Mais, effectivement, sous l'influence... de l'émergence de nouveaux courants intellectuels dans le milieu universitaire, parce que souvent aussi ça a été porté par des jeunes femmes qui avaient fait des études de genre à l'université, en particulier en sociologie, je pense.
D'accord. Si avant de évoquer les inégalités, les revendications actuelles, si on fait un bilan des victoires de ces trois vagues. Voilà, quelles sont selon vous les principales victoires de ces trois mouvements féministes depuis un siècle ?
Je crois que, il me semble que pour moi la victoire principale c'est l'émergence de la femme en tant que citoyenne. Citoyenne à part entière. L'autre conquête très importante pour les femmes, c'est la maîtrise de leur corps, de leur fertilité, qui a quand même été un asservissement pendant des siècles et qui a fait beaucoup de morts aussi parmi les femmes. Hein. Beaucoup sont mortes en couche et dans des grossesses, enfin à l'occasion de grossesses qui n'étaient pas forcément désirées, puisqu'elles connaissaient pas leur propre fertilité, le fonctionnement de leur propre corps. Donc je pense que cette réappropriation de son corps du corps pour les femmes était absolument centrale. Elles émergent, donc je disais, en tant que citoyennes parce que elles ont le droit de vote, parce qu'elles peuvent ouvrir un compte en banque, parce qu'elles peuvent voyager, parce qu'elles peuvent être indépendantes justement et choisir ou non de se lier à un compagnon ou à une
compagne.
Parce
que tout ça paraît évident aujourd'hui, mais c'est des...
Ça a été construit, c'est
arrivé petit à petit au XXe siècle,
ouais,
c'est tout ce que vous avez évoqué.
C'est pas... Oui, c'est ça, c'est le fruit de toutes ces luttes. Et donc ça, je pense que c'est... Oui, quand j'ai travaillé un tout petit peu sur l'histoire de ma famille et sur mes grand-mères, arrière-grand-mères, je veux dire, en trois générations, nos vies ont tellement changé. Enfin, je veux dire,
chaque génération.
C'est énorme. Enfin, je veux dire, je pense que mon arrière-grand-mère devait être à peine alphabétisée. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très récent l'accès au savoir, à l'éducation pour les femmes, tout simplement. Enfin, commençons par là. Et ça reste encore un enjeu dans beaucoup de pays où, quand on a le choix, on envoie plutôt un garçon qu'une fille à l'école. Hein.
De l'autre côté, Irène Pereira, le principaux acquis du XXe siècle, même si le terme acquis peut se transformer.
J'insisterai peut-être aussi sur la reconnaissance du travail des femmes, c'est-à-dire que pendant longtemps, les femmes ont travaillé, on ne s'en est pas nécessairement aperçu, et même le féminisme a eu du mal à le reconnaître, puisque pendant un certain...
Travail non rémunéré, dans l'agriculture, par exemple.
Alors, bien sûr, il y a le travail domestique, donc ça, par contre, ça a été justement tout un acquis du féminisme des années 70 et d'un certain nombre de théoriciennes et de militantes pour montrer que le travail domestique était un travail à part entière, mais un travail gratuit. Et puis, d'autre part, le fait que certes, les femmes des milieux populaires ont toujours travaillé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a eu du mal à voir, puisque même le féminisme a dit pendant un certain moment que c'était enfin l'accès, enfin le XXe siècle marquait l'accès des femmes au travail, ce qui n'était pas forcément le cas, mais en tout cas ça marque la reconnaissance de la femme dans la sphère professionnelle, reconnaissance qui reste, on va le voir, dans les faits relativement discutable et limitée. Mais en tout cas, le fait qu'un certain nombre de professions leur soient ouvertes, le fait que de plus en plus de femmes ont accédé à la sphère professionnelle, Donc ça, ça me paraît quand même quelque chose d'important, en plus de la question de la citoyenneté. Et puis d'autre part, c'est aussi bon, parce que ce que disait Laurence, mais la question des droits civils, hein, puisque il faut voir que dans les années 60, une femme devait encore demander l'autorisation de son mari pour quitter le territoire, pour pouvoir travailler, pour avoir un chéquier, etc.
Alors justement, là, vous parlez de reconnaissance dans le milieu de professionnel et dans le milieu de l'emploi. Donc c'est un peu un arbre qui cache la forêt en termes d'inégalité. Aujourd'hui, les mouvements féministes ont beaucoup de revendications sur la répartition de l'emploi entre hommes et femmes. Quelles sont aujourd'hui donc si on refait un retour vers le présent, les principales revendications?
Alors, la difficulté, c'est qu'en droit, il y a une égalité, et il y a même, on va dire, normalement, des obligations qui sont faites à l'employeur. Mais de fait, la première difficulté, ça va être dans l'accès au marché de l'emploi, avec la discrimination des femmes par rapport aux hommes au moment où elles vont être embauchées. Ça va être aussi les différences de salaire, hein, qui vont jusqu'à 27%, enfin, bon, selon les modalités de calcul. Et même dans la fonction publique, on va voir que malgré des grilles de salaire qui semblent être équivalentes, bah, il va y avoir des différences parce que une femme va faire moins d'heures supplémentaires puisqu'elle va garder les enfants de manière plus privilégiée que son compagnon, etc. C'est aussi donc bien sûr la question du déroulement de carrière, puisque les femmes étant bien souvent chargées de l'éducation des enfants, elles vont sacrifier un peu leur carrière professionnelle. Et puis de ce fait, alors ça va amener aussi la question du temps partiel subi, puisqu'on va se mettre à temps partiel pour pouvoir garder les enfants. Et puis les conséquences, on va les voir aussi au moment de la retraite, puisqu'elles vont avoir une pension en moyenne moitié moindre par rapport à celle des hommes. Donc on voit que ça impacte tout le déroulement de carrière. Et puis il faudrait aussi voir deux autres choses, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. La disparité aussi dans les champs professionnels, hein, avec des emplois plus rémunérés et plus prestigieux pour les hommes que pour les femmes. Et puis sur les postes de direction aussi, ce qu'on appelle le plafond de verre, le fait que les femmes vont être dans les emplois en fait les moins importants, et puis les hommes auront les postes de direction.
Hans Baudelet, vous voulez peut-être intervenir, notamment sur les inégalités de salaire. Il y a de multiples facteurs. En fait, il y a déjà les différences d'emploi entre les hommes et les femmes, du fait que les femmes sont plus majoritairement dans des emplois sous-valorisés, le temps partiel. Et après, une fois qu'on a accumulé tout ça, il y a encore les inégalités à compétences égales qu'on a du mal à expliquer d'une autre manière que par la discrimination.
Oui, c'est-à-dire que là, on ne peut plus invoquer des différences effectivement de formation initiale, puisque les filles sont assez bonnes à l'école. En réalité, elles réussissent plutôt bien dans le milieu scolaire, elles obtiennent des diplômes, mais on constate qu'effectivement, elles ne font pas les mêmes carrières que leurs homologues masculins à diplôme équivalent. Et ce qui peut expliquer ça, ce ne sont que des motifs culturels, en fait. Donc ce machisme, parce qu'il faut quand même le dire, la société française reste assez machiste, assez misogyne, parfois même, on en a des épisodes régulièrement à la Assemblée nationale, hein, je veux dire, des choses qui sont mais vraiment caricaturales. Enfin,
D'ailleurs, on peut être homme et féministe et femme et machiste.
Ah, complètement. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a des femmes qui ne soutiennent pas la cause des femmes et il y a des hommes qui ont fait avancer la cause des femmes. On a cité Condorcet tout à l'heure. Peut-être qu'il vaut mieux rencontrer Condorcet qu'à l'époque Madame Thatcher. Je ne crois pas qu'elle soit beaucoup mobilisée pour les femmes. Hein. Donc, je ne tiens pas un discours caricatural anti-homme du tout. Hein, mais je constate qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes accèdent à l'enseignement supérieures, ont des diplômes, elles arrivent moins bien à les valoriser d'une manière générale dans le monde du travail en France. Et je pense qu'il y a du travail, il y a encore pas mal de choses à faire évoluer dans les mentalités, dans les représentations. Je veux dire, je caricature même pas en disant que quand on nomme une femme ministre, on commente avant tout la façon dont elle s'habille. Hein. Quand on nomme un homme ministre, on commente ses propos et le contenu de son travail. Voilà, on en est encore là en France en 2013. Hein. Donc on a commenté le fait que Cécile Duflo était venue avec un jean ou ce genre de truc. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les bras vous en tombent, quoi. Je veux dire, en tant que femme, quand vous entendez les médias relayer ce type de choses, pour certains d'entre eux, en tout cas, ils sont une caisse de résonance aussi, et ils confortent ces représentations et ces approches. Hein.
Ok. Donc avant de peut-être avant de poursuivre hein, sur ces inégalités, notamment dans le domaine de l'école hein, qu'on a commencé à aborder, on vous propose une première pause musicale avec un extrait du dernier album d'Alexis HK, Le Dernier Présent.
Que pourrais-je bien te raconter pour rassurer tes yeux quand je sens la peur?
Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, émission consacrée au mouvement féministe et aux inégalités hommes-femmes. On reprend notre panorama des inégalités et des revendications féministes. On va parler un peu de l'école. C'est notamment une des explications des inégalités qu'on rencontre dans l'emploi, c'est que souvent, ça commence dès l'école, à la fois dans les représentations qui sont transmises par les enseignants aux garçons et aux filles, et aussi, à mon avis, dans l'orientation qui est un peu guidée vers certaines filières et pas vers d'autres. Quoi. Irène Pereira.
Je pense qu'effectivement, il est important de revenir sur la question de l'école, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a mis ces derniers... année, l'accent sur la plus grande réussite des filles dans le milieu scolaire par rapport aux garçons, sur le fait même que cet échec relatif des garçons dans le système scolaire serait dû à l'existence d'enseignantes majoritairement femmes.
Vous avez des chiffres pour donner un ordre d'idée sur là, quand on parle de réussite un petit peu supérieure des filles par rapport aux garçons, je sais pas.
Comme ça, il faudrait que je me reconcentre pour me
répondre. Pas un pourcentage à virgule, mais juste pour essayer de.
Les chiffres. Ce qui est certain, c'est que jusqu'au bac...
Il y a différentes manières de l'apprécier aussi, au niveau du bac, au niveau des filières.
Jusqu'au bac, on estime qu'effectivement, les filles réussissent mieux dans le système scolaire que les garçons. Mais le problème, en tant qu'enseignante, moi, ce que je constate, c'est effectivement la question de la répartition des élèves dans les filières. C'est-à-dire que quand vous avez une filière accueil ou hôtesse d'accueil, bah, vous avez principalement des filles.
Alors
vous allez
me dire, ça va pas s'appeler hôte d'accueil.
Voilà.
S'appeler hôtesse d'accueil.
Et quand vous avez bien sûr des métiers plus techniques de type auxquels on associe effectivement des professions masculines, bah et bien sûr vous n'avez majoritairement des garçons. Mais le problème c'est surtout aussi les filières scientifique, parce que vous avez les études scientifiques attirent moins les filles. Il y a tout un travail à faire. Moi, j'ai une classe option sciences de l'ingénieur. J'ai 4 filles sur 28 sur 28 élèves, et c'est la section considérée un peu comme la plus prestigieuse de mon lycée.
Et vous l'expliquez comment
Bien, c'est là où j'attire l'attention sur la question du volontarisme, c'est-à-dire que l'inégalité, elle se reproduit. Tant qu'on la laisse faire, s'il n'y a pas de prise en charge de cela pour modifier et attirer les filles vers les sections scientifiques et modifier effectivement ce type d'orientation qui a l'air si naturel, bien rien ne va se passer. C'est la même chose sur... de toute façon, le système.
Oui, parce que c'est pas l'école qui uniquement qui trie entre garçons et filles. C'est-à-dire que ça passe aussi par les représentations véhiculées par la famille, par les médias, chez les garçons et chez les filles, qui vont aussi.
Alors, bien sûr, il y a d'une part.
Surdéterminer, c'est.
Alors,
ces
bien
choix,
sûr, il y a la reproduction scolaire, il y a la reproduction sociale de manière générale. Il y a des stéréotypes, que ce soit dans les médias,
dans les jouets
dans les jouets, etc. Donc, toutes ces choses-là vont contribuer à des différences de socialisation. Mais je pense que le système scolaire a un rôle en France tout à fait particulier, qui ne joue pas dans d'autres pays. On peut comparer, et on l'a vu aussi sur les inégalités professionnelles, les pays scandinaves, connaissent moins ce type de problème que nous. Hein, par exemple, si on prend le système scolaire finlandais, on n'a pas autant, on n'a pas ces différences entre filles et garçons. Si on prend, et de toute façon, le système scolaire, il reproduit en France les inégalités, et pas seulement les inégalités de genre, les inégalités de classe, les inégalités liées à l'immigration, c'est assez consternant.
Et si on retourne juste en Scandinavie, là, 30 secondes, comment vous expliquez, quel est le modèle scandinave pour expliquer cette réussite?
Si on prend en compte davantage les questions, ne serait-ce que dans l'organisation du travail, si on organise différemment, par exemple, les réunions, par exemple, prenons la question des réunions professionnelles. C'est sûr que si vous mettez des réunions professionnelles tard le soir, si vous n'avez pas de crèche ou de système de garde en entreprise, etc. Si effectivement aussi on considère qu'il est normal de sous-payer une femme parce qu'elle risque d'être enceinte, bien tout ça contribue à reproduire l'inégalité homme-femme.
Donc c'est un mélange de facteurs, organisation sociétale plus l'organisation de l'école au quotidien en fait.
Oui, c'est puis un manque de volontarisme aussi dans la société française, je pense, sur ces questions-là. Quand vous voyez que la loi sur la parité, si on prend le champ politique, les partis politiques peuvent s'en exempter en payant des amendes, et c'est ce qu'ils font, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, elle se révèle inefficace.
On va aborder le champ politique juste après. Peut-être Laurence Baudelet voulait intervenir sur... Sur l'école aussi, vous avez commencé tout à l'heure une explication sur le rôle de l'école dans la reproduction des inégalités hommes-femmes.
Je dirais que l'école, c'est une grande chance pour les femmes parce qu'elles sont restées longtemps devant la porte. Hein, c'est un aspect quand même très positif. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Maintenant, effectivement, je pense que on retrouve à l'école le même plafond de verre qu'on a dans la société, c'est-à-dire que elles peuvent suivre par exemple l'enseignement scientifique comme les garçons. Donc pourquoi on retrouve plus de garçons que de filles dans les filières scientifiques, sachant qu'aujourd'hui ce sont les filières d'excellence? Donc d'une certaine façon, déjà, en ayant moins de filles dans les filières d'excellence, parce que là aussi le système français, bien sûr, sur le papier tout est égalitaire, mais on sait bien que dans la réalité les filières sont évaluées de manière différente. Donc les filières scientifiques qui sont aujourd'hui les filières d'excellence, donc comptent moins de filles. Donc forcément, je veux dire, c'est pas étonnant que par la suite, on retrouve dans une même classe d'âge moins de femmes dans des postes à responsabilité, des postes élevés, puisqu'elles étaient déjà moins présentes dans les filières d'excellence qui mènent vers les grandes écoles, c'est-à-dire tout le système d'excellence à la française. Voilà, il faut s'interroger. Alors, qu'est-ce qui, dans notre culture, moi je reviens quand même beaucoup à ces questions-là, qu'est-ce qui fait que les filles n'arrivent pas à se projeter dans des métiers scientifiques? Pourquoi les jeunes françaises ne se projettent pas dans des métiers scientifiques? Mais peut-être qu'on leur montre pas suffisamment des femmes scientifiques. Je veux dire, la seule personne au monde qui a eu deux prix Nobel scientifiques, c'est bien Marie Curie. Mais peut-être qu'on le dit pas suffisamment aux filles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être brillantes en sciences, qu'elles peuvent réussir et même réussir très très bien. Mais on va leur parler de Pasteur, on va leur parler d'autres référents qui sont des référents masculins, globalement. Quand vous entendez en mathématiques parler d'Euclide ou de Thalès, on vous parle pas de femmes. C'est difficile de se dire, moi aussi, je peux être brillante en physique ou en mathématiques.
Et pour poursuivre, on parlait d'école, vous avez utilisé l'expression parité sur le papier. S'il y a bien un domaine où la parité sur le papier est inscrite, c'est bien dans la sphère politique, avec différentes lois, notamment la volonté du gouvernement et des différents gouvernements d'avoir la parité. Quels sont, on parlait en rigolant un peu tout à l'heure de Cécile Duflot, hein, mais sur quelles sont les principales revendications en termes de prise de décision politique pour le mouvement féministe dans ce secteur?
Je crois que, sur la question politique, là, on est dans les municipales, là, on est dans un cas concret. C'est-à-dire, effectivement, ce que disait Irène tout à l'heure, on a des partis politiques qui peuvent s'affranchir de ces questions simplement en payant une amende. Voilà, donc soit on décide qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans la représentation nationale et il n'y a pas de possibilité de s'exonérer, on constitue les listes à égalité, soit on considère que cette idée, ce principe est mauvais et qu'il faut constituer les listes sur d'autres bases et on se donne d'autres règles. Mais se donner des règles et prévoir en même temps de pouvoir les contourner, c'est les bafouer, ça n'a pas beaucoup de sens.
On augmente les amendes peut-être alors.
Mais non, mais je crois pas. Mais c'est la même chose dans d'autres domaines d'ailleurs. Hein. Je veux dire, pour les villes qui devraient construire des logements sociaux et avoir 20% de logements sociaux et qui préfèrent payer une amende plutôt que d'avoir effectivement plus de mixité sociale sur leur territoire. Donc là aussi, je dirais qu'il faut un peu plus de courage sur le plan politique. Quand on veut vraiment réformer la société et faire évoluer les choses, vous pouvez pas avoir la moitié de la peine de mort, la moitié de l'abolition de l'avortement ou de la possibilité d'avoir une contraception ou je sais pas trop quoi. Et je veux dire, on fait pas les choses à moitié, on les fait complètement ou pas. Or, sur la question des femmes, on voit bien que les politiques sont plutôt hésitantes, en tout cas sur ces questions-là, et elles sont assez molles, quoi. Je veux dire, du coup, on voit pas d'évolution importante.
Est-ce que la loi sur la parité a quand même apporté un progrès dans le nombre de femmes élues dans les collectivités locales, au Parlement, ou bon, pas au gouvernement, parce qu'elles sont pas élues, mais... Est-ce qu'il y a quand même eu un progrès depuis cette loi sous le gouvernement Jospin ?
Ça dépend à quel niveau on se situe. Sur les collectivités territoriales, sur les régions, oui, par exemple, parce qu'il y a des obligations plus spécifiques, ou parce qu'il y a moins d'enjeux.
Il y a plus de femmes qu'avant élues sur ces...
Oui, ou là où il y a des scrutins de liste aussi, ça favorise plutôt les femmes, parce qu'il y a moins d'enjeux portés sur une figure.
C'est majoritaire, souvent la femme se retrouve...
Voilà, et c'est... disons que le problème des femmes, c'est qu'on va les mettre soit sur des circonscriptions non gagnables, soit on va les mettre plus loin dans la liste. Voilà. Donc, ça va être en fonction, effectivement, du type de scrutin.
Parce qu'il y a des scrutins, on est obligé d'alterner un homme, une femme.
Voilà, il y a des mesures particulières sur certains types de scrutins. En particulier, la dernière loi, si je me souviens bien, a établi des règles un peu particulières sur les conseils régionaux. Mais par contre, c'est vrai que la difficulté, elle porte sur le fonctionnement du champ politique, c'est-à-dire sur le fonctionnement des partis politiques, effectivement.
Le Parlement, la représentation des femmes n'a pas beaucoup évolué.
Non, là, c'est un des cas où, effectivement, plus il y a d'enjeux pour les partis politiques dans la carrière politique, moins les places sont laissées aux femmes. Donc, et en plus, il y a une tendance des femmes à s'investir plus sur le local que sur le champ national, plus sur la vie associative que sur la vie politique. Donc ça aussi, ça crée des différences aussi genrées au niveau de la question de l'engagement dans l'espace public.
Est-ce qu'il y a des... peut-être une question polémique, mais est-ce qu'il y a des différences entre les couleurs politiques sur cette répartition homme-femme ?
Sur les femmes dans la... Parce que traditionnellement, on va peut-être penser que les partis de gauche donnent une plus grande place aux femmes.
Je voulais pas le dire,
Bien. Alors, j'ai plus là non plus en mémoire les chiffres, excusez-moi, mais ce qu'on dit, c'est que, par exemple, paradoxalement, il me semble que, par exemple, sur les femmes au gouvernement, la droite a pu mettre plus en avant certaines. Parfois les femmes pour des enjeux stratégiques, mais parfois vous voyez c'est aussi une question marketing, c'est-à-dire que c'est l'arbre
qui
cache...
On parlait des jupettes à l'époque, justement.
Voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que parfois le problème c'est qu'on va mettre en avant certaines figures prendre certains exemples pour le cas majoritaire. C'est le même problème avec aux États-Unis le fait qu'il y ait un président noir, ça ne veut pas dire que vous ayez un voilà. Donc c'est la difficulté là aussi entre effectivement la réalité des chiffres et puis des coûts marketing.
Alors, on vous propose, avant de poursuivre ce débat, une seconde pause musicale, donc avec un extrait du dernier album de Carmen Maria Vega, La Marquise. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Donc l'émission Mode d'emploi de ce soir, animée par la Fondation Copernic, est consacrée au mouvement féminisme et aux inégalités hommes-femmes. Alors pour poursuivre le débat qu'on avait avant cette pause musicale, je vous propose d'aborder une autre sphère, la sphère familiale. Donc je me retourne vers Laurence. C'est un peu une sphère un peu transversale qui explique aussi pas mal de choses sur l'emploi, l'école, la politique. Hein, donc là, quelles sont, on imagine très bien les inégalités qu'il peut y avoir. Quelles sont les principales revendications? On parle souvent de répartition des tâches domestiques, du travail non rémunéré, en lien aussi avec le système capitaliste hein, qui est actuel. Voilà, quelles sont les principales revendications aujourd'hui sur des mouvements féministes, sur cette sphère, sur ces inégalités hommes-femmes au sein de la famille?
Ben, je crois qu'effectivement, bon, il y a cet enjeu de la deuxième journée pour les femmes qui commence après le travail, et les femmes françaises sont, pour un grand nombre d'entre elles, donc actives. Elles travaillent, elles ont des enfants et elles travaillent, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes en Europe. Ça, il faut le dire, c'est quand même parce qu'on a un système de garde, de garderie et de crèche et de maternelle qui permet aux femmes donc d'avoir une activité professionnelle. Alors, il est largement amélioré, ce système-là, parce qu'il manque hein, de nombreuses places, etc. Je suis pas en train de dire que c'est un système qui fonctionne de manière parfaite, mais en tout cas, ça a l'air un peu plus simple que pour les femmes allemandes, par exemple. Donc, elles travaillent et elles ont effectivement cette deuxième journée. Ça, c'est une des revendications fortes, donc sur un meilleur partage, un partage plus équitable, en tout cas, des tâches domestiques et aussi de tout ce qui relève du soin et de l'éducation des enfants. Non seulement elles s'occupent effectivement de la partie, comment dire, entretien de la maison, des tâches ménagères, bien souvent encore, mais aussi elles s'occupent de l'éducation des enfants. Ce sont elles, bien souvent, qui font faire les devoirs, qui suivent les devoirs avec les enfants, et ça, on sait que c'est une des clés de la réussite scolaire, justement. Donc le rôle des femmes, je dirais, dans la réussite des garçons et des filles, mais aussi des garçons, c'est bien parce qu'il y a eu des mères, qu'il y a autant de garçons qui aussi peuvent réussir, parce que ce sont souvent leurs mères qui leur ont fait réciter leurs devoirs et pas leur père. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a pas une évolution dans ce domaine des générations des 20-30 ans? J'ai l'impression quand même que, bon, souvent, si je me rappelle bien mes études de sociologie, on disait que ça s'égalisait au premier ou au deuxième enfant, mais que dès qu'on arrivait au troisième enfant, ça y est, on reprenait le schéma classique où la maman s'occupait plus des enfants que...
Moi, il me semble, enfin...
Non, c'était l'inverse.
Non, mais il me semble plutôt que c'est tant que le couple, enfin, tant que le jeune couple n'a pas d'enfant, où c'est à peu près le partage des tâches est à peu près égal, mais en fait, c'est dès la naissance de l'enfant qu'on repart sur des schémas plus classiques. Et là encore, c'est vrai qu'en moyenne, de toute façon, la répartition des tâches ménagères, elle est toujours en défaveur des femmes, et je crois que c'est une heure d'écart, hein. 2 heures chez les hommes, 3 heures pour les femmes, quelque chose
par semaine ou
par semaine.
Alors, plus que ça, c'est plus que par semaine, à mon avis. Hein. C'est certainement peut-être plutôt par jour.
Oui,
hein,
si c'est des tâches domestiques.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, parce qu'on inclut aussi tout compris, l'éducation des enfants.
Bah oui, oui, tout à fait. Non, mais moi, ce que je veux dire pour terminer par rapport à ça, c'est que les hommes, effectivement, privilégient leur carrière et le champ professionnel. Ils n'ont pas non plus toujours le choix, parce que c'est vrai que l'entreprise mise sur eux, que du coup, on est tous pris dans un fonctionnement social, si vous voulez. Donc les choix sont pas toujours, c'est pas parce que ces hommes n'ont pas forcément envie de s'occuper de leurs enfants, mais c'est vrai qu'ils sont en face aussi, pour certains, à des choix cornéliens entre maintenir des revenus qui permettent aussi à la famille de vivre confortablement. Donc voilà, donc il y a toutes ces représentations, enfin c'est plus que des représentations, je veux dire, il faut faire évoluer le social de manière générale, c'est-à-dire que les femmes puissent faire des carrières qui leur permettent d'être plus autonomes sur le plan financier et économique, ou on puisse se répartir la garde des enfants dans la semaine, parce que l'un et l'autre a des réunions importantes en soirée, etc. Voilà, et ces arbitrages-là, et c'est mieux dans la génération-là, je suis d'accord, hein, les choses bougent un peu, mais pas tant que ça quand on regarde les chiffres, justement.
Oui, parce qu'on a l'impression quand même, sur ces nouveaux couples, quand même, il y a quand même des évolutions positives. Je pense notamment au couple avec des 80% chacun pour s'occuper des enfants et autres. Là-dessus, on le voit, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, en regardant autour de moi, qu'il y a quand même une amélioration de la répartition des tâches à la maison.
Alors oui, effectivement, je pense que il y a un certain nombre d'hommes qui ont bien pris conscience de ces inégalités. Je pense que c'est une réalité. Je la nie pas, mais je pense qu'il faut regarder les choses voilà de manière globale parce que c'est certainement lié. Enfin, c'est aussi peut-être plus facile dans certains milieux, c'est plus facile dans certains secteurs d'activité professionnelle. On est peut-être moins contraint par des horaires, etc., où on peut aménager les choses. C'est pas évident toujours. Et puis sur la question du congé parental, par exemple, on voit bien que les femmes le demandent beaucoup plus que les hommes. Je pense qu'il y a des hommes qui aimeraient prendre un congé parental, mais il y a un coût réel pour leur carrière. Donc c'est vrai que je pense qu'ils hésitent face à ça. Si il y avait une acceptation sociale plus importante par rapport au fait qu'un homme puisse prendre un congé parental, on verrait certainement plus d'hommes les demander.
Il y a peut-être aussi, je me fais l'avocat du diable, hein, mais il y a peut-être aussi des hommes moins carriéristes dans cette nouvelle génération. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de réflexions entre la répartition entre le domaine familial et le domaine professionnel, que les hommes d'aujourd'hui sont quand même un peu moins carriéristes et que le couple n'a plus à faire un choix, en tout cas de moins en moins un choix entre l'homme et la femme pour assurer un revenu.
Mais oui et non, parce que les femmes restent soumises pour un certain nombre d'entre elles à du temps partiel. Donc, ce qui veut dire que quand leur compagnon travaille lui à temps plein, c'est les revenus qui de son salaire qui font quand même en partie vivre le ménage. Donc là aussi, effectivement, même des hommes qui voudraient pour certains décélérer, mettre le pied un peu sur le frein, enfin consacrer plus de temps à leur famille, etc., ne peuvent pas toujours le faire. Et avec les réductions là qu'on vit en France, les réductions budgétaires fortes, les licenciements dont on entend parler tous les jours, etc., je veux dire, les gens qui sont aujourd'hui en situation d'emploi, hommes comme femmes, hein, mais travaillent énormément, je veux dire, on le voit bien toutes et tous. Donc c'est au détriment aussi d'une vie familiale, de la sphère privée. Et je pense que c'est aujourd'hui on est sous tension. La sphère familiale elle est sous tension parce que aussi il y a du côté du professionnel, quoi, de la vie professionnelle, les exigences sont très très fortes.
Hein. Irène Pereira, la sphère privée du côté dans la situation des femmes, c'est aussi des violences et des viols. Il y a des chiffres qui sont quand même très parlants et que quand on les lit comme ça, je trouve ça assez frappant. Vous allez me dire s'ils sont toujours d'actualité. En France, hein, c'est pas à l'échelle mondiale, hein, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon et près de 200 femmes sont violées chaque jour. C'est des chiffres...
Oui, ce sont les chiffres exacts. Alors le problème... en particulier pour les chiffres du viol, c'est des estimations liées aux déclarations aussi.
C'est-à-dire que il y a des viols conjugales en fait.
Alors le viol de toute façon, conjugaux, de manière générale, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. 80% des viols, c'est plutôt quelqu'un qu'on connaît dans la sphère. Proche, donc ça va être effectivement un ancien petit ami, le conjoint, une personne que l'on connaît. C'est rarement le prédateur sexuel dans un parking sombre. Donc ça, c'est une image un peu caricaturale du viol. Et quant effectivement aux violences que subissent les femmes, les violences physiques, bah là aussi, ça va être beaucoup moins les coups et blessures dans une ruelle que effectivement les violences conjugales dans la sphère domestique. Donc l'espace le plus dangereux, paradoxalement, pour les femmes, c'est pas tant l'espace public que l'espace domestique, alors que justement, bien souvent, les femmes sont aussi victimes d'une peur de l'espace public, ce qui explique aussi que certaines féministes essayent de réinvestir l'espace public avec des marches de nuit des femmes, etc., pour justement essayer d'aller contre ces représentations et faire en sorte que les femmes osent investir l'espace de la rue aussi.
Laurence, votre point de vue sur ce sujet, sur ces violences faites aux femmes?
Alors, effectivement, les violences faites aux femmes, ça reste un problème majeur en France et c'est vraiment déplorable dans un pays développée, etc. Les chiffres sont complètement effrayants. Enfin, et en tant que femme, c'est terrible de se penser comme une proie potentielle simplement parce qu'on appartient à cette classe de genre, comme disait Monique Wittig, parce qu'on est femme, on est potentiellement une proie. Alors malheureusement, les hommes aussi peuvent être agressés. Il y a aussi des agressions sexuelles à l'égard des hommes. Je les dénie pas du tout, mais c'est vrai que ça reste présent. Enfin, je veux dire, et en tant que femme, on a toutes vécu des situations où on s'est senti en danger, parfois dans la sphère publique ou privée, plus ou moins. Mais je veux dire où effectivement, on s'est dit tiens là, ça pourrait mal tourner, et donc. Il y a certainement là aussi un travail à faire d'éducation, de sensibilisation pour essayer de prévenir ces formes de violence.
Vous travaillez justement, vous êtes président d'une association sur un thème dont on a parlé de beaucoup de thèmes un peu invisibles ce soir qui pourtant il y a des chiffres assez impressionnants. Et vous travaillez sur les violences entre femmes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la situation en France, ou si vous avez donné un ordre d'idée des violences entre femmes.
Alors justement, on n'en a aucune idée. Donc cette association, elle a 4 ou 5 ans. Elle avait une activité qui était pas très importante, et là on la relance parce que justement on se dit que il y a peu de recherches sur ces questions-là. C'est-à-dire la question de la violence du côté du féminin. Alors faut bien s'entendre, hein, je suis pas en train de dire que la question principale pour les femmes c'est la violence qui peut surgir entre femmes, mais elle est présente aussi, et donc dans la sphère privée également. Donc ça peut être des violences dans la fratrie, ça peut être des violences belle-mère belle-fille, ça peut être des violences mère-fille. Ça peut être des violences dans le monde professionnel, ça peut être des violences dans les couples de femmes aussi. Donc on s'intéresse à ça parce qu'on se dit que justement c'est intéressant que des femmes s'interrogent sur la violence du côté du féminin pour essayer de la prévenir là aussi et de comprendre quels sont les enjeux. Et donc là on a remis en place un groupe de parole sur les violences dans les couples de femmes grâce à un partenariat avec la mairie du 4e arrondissement. Donc le groupe de parole a lieu, le prochain c'est le 21 novembre à 18h30 à la mairie du 4e pour les femmes que ça concerne, parce qu'il y avait par exemple sur cet enjeu-là, donc de violences dans les couples lesbiens, il y avait rien en Île-de-France. Voilà, il y avait pas de lieu où parler. Alors que y a une population homosexuelle ou de femmes qui ont des relations avec des femmes sans se reconnaître comme homosexuelles et qui peuvent avoir besoin à un moment d'une écoute. Donc là, le groupe de parole est animé par Jacqueline Beatty, qui est une psychologue, pour justement permettre aux femmes de parler de la violence qu'elles peuvent subir dans leur parfois dans leur relation amoureuse, comme dans n'importe quelle relation amoureuse qui peut mal tourner.
On mettra un lien vers. Vers le site de votre association, sur le site de la Fondation Copernic.
Merci.
Irène Pereira, il nous reste 2-3 minutes pour conclure. Y a une partie du mouvement féministe qui fait une passerelle en fait entre les revendications féministes comme un outil de transformation sociale en fait, un lien souvent entre les revendications féministes et l'anticapitalisme. Comme vous pouvez nous éclairer sur ce lien qui peut exister, notamment par rapport au fait que les inégalités hommes-femmes se retrouvent dans tous les domaines de la vie sociale, et que justement, si on arrivait à rééquilibrer ces situations, ça aurait un impact plus que dans chaque domaine, mais globalement dans la société.
Ben disons que le capitalisme et les rapports sociaux de sexe, les rapports sociaux capitalistes sont coextensifs l'un de l'autre. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de la question de la répartition du travail ménager et de l'éducation des enfants. C'est pas seulement une question de volonté individuelle. Il y a aussi le problème de l'organisation sociale. Et c'est vrai que le moment où un couple s'interroge sur qui va garder les enfants, s'il y en a un qui gagne 25% de salaire en plus, c'est certain que ça va avoir un impact. Donc à ce moment-là, si vous voulez, l'homme va faire carrière, la femme va prendre un temps partiel, et là on entre dans l'engrenage. Donc là, ça dépasse la question des volontés individuelles, puisqu'il y a une organisation sociale et qui fait que effectivement les deux types de rapports sociaux s'entretiennent l'un l'autre, comme on le voit, puisque ce qui permet aux hommes de faire carrière et de pouvoir libérer
du temps, c'est effectivement le travail domestique des femmes, mais c'est effectivement cette inégalité salariale qui va faire que aussi, bien ces femmes, elles vont rester de manière plus privilégiée à la maison par rapport au fait que c'est le compagnon qui va aller effectivement faire carrière. Donc les deux sont imbriqués ensemble.
Alors l'émission malheureusement touche à sa fin, c'était une émission très intéressante hein, qui mériterait presque un deuxième épisode. Donc avec Mathieu, on tenait à vous remercier nos deux invités, hein, donc Irène Pereira et Laurence Baudelet.
Merci. C'est période de vacances, c'est pas toujours facile de mobiliser les invités.
Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On remercie aussi Claude à la technique. Donc pour rappel, vous pouvez télécharger l'émission sur le site de la Fondation Copernic, donc fondation-copernic.org. Le prochain volet de l'émission Mode d'emploi version Copernic aura lieu le vendredi 22 novembre sur un autre thème, c'est les menaces du projet d'accord commercial Europe-États-Unis. Pour conclure, nous vous proposons un morceau de Janis Joplin, Summertime. Merci à tous, au revoir.